au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, heureux de vous retrouver là, comme à chaque semaine, à partager un moment privilégié en compagnie de notre invité qui nous fera part de sa destination bonheur au gré du temps. Aujourd'hui, nous accueillons le directeur du service aux entreprises au Centre local de développement de Montréal-Nord. Sa fonction, accompagner des entrepreneurs au plan local, mais souvent dans des dossiers d'envergure nationale et arrimés sur les besoins des citoyens, que ce soit dans le secteur de la santé et du bien-être, du logement et de l'habitation, de l'éducation ou de l'entrepreneurship. Bref, vous direz-vous, un travail bien sérieux. Et pourtant, c'est aussi quelqu'un qui accorde une grande place à la méditation, à la réflexion, à la lecture et à la musique. Il affectionne particulièrement la guitare, un instrument qu'il maîtrise bien d'ailleurs. Formateur aguerri, on peut dire de lui qu'il croit aux étoiles, qu'il sait transmettre l'espoir parce qu'animé d'un idéal, celui de croire que la vie se nourrit de l'intérieur. Un plaisir d'accueillir M. François Préjean.
Merci, M. Dubois. Quelle belle introduction.
Alors, effectivement, un travail qui nous semble un tantinet sérieux. Vous évoluez dans le milieu des affaires, si j'ose dire, auprès de jeunes entrepreneurs, c'est exact?
Je le fais depuis 7 ans. Ce que je fais, c'est que j'aide des particuliers à démarrer une entreprise. J'aide également les entreprises existantes à avoir plus de succès. Alors, ça passe immanquablement par une certaine compréhension d'un projet. Et ça fait 7 ans que je fais ça, et c'est évolutif parce que ma compréhension de comment on fait pour aider quelqu'un avec un projet, cette compréhension, la mienne, elle a évolué, elle a changé, et je pense que initialement, je parler du plan d'affaires. Maintenant, je parle de choses qui sont beaucoup plus profondes. Je parle de système de croyance, je parle de valeurs, je parle d'habitudes, je parle de comportement pour amener les particuliers à se réaliser.
Ça peut sembler paradoxal parce qu'au moment où on démarre une entreprise, la première option à laquelle on peut penser, c'est d'abord la situation financière, c'est l'organisation matérielle. Et dans ce que vous venez de nous dire, on n'est pas du tout dans ce schéma de pensée.
Ah, c'est curieux, hein? Quand on examine les différentes ressources dont on dispose, la première chose qu'un particulier va me dire, c'est l'argent. J'ai besoin d'argent. Donne-moi de l'argent, je vais commencer mon entreprise. Alors que quand on regarde l'ensemble des ressources, la ressource la meilleure, la plus intéressante, c'est l'être humain, c'est le promoteur lui-même. Et quand on gruge encore plus, on s'aperçoit que cet être humain, le promoteur, il fait preuve de débrouillardise, d'imagination, de créativité, d'intelligence, tous des éléments qui n'ont pas de limite. Alors que quand on parle d'argent, si moi j'ai 5 000 $ investis dans mon projet, à un moment donné, je l'ai dépensé, mon 5 000 $, il ne reste plus rien. Alors que l'être humain, la débrouillardise, le sens d'initiative, faire des choses que les autres n'ont pas fait, alors là, ça suggère une certaine transformation.
C'est peut-être là que nous pouvons parler d'avoir ce que nous appelons communément une vision.
Ah, tout à fait, tout à fait. Le projet... que ce soit un projet d'affaires, un projet de vie, part tout le temps avec une image qu'on a en tête et qu'on va garder en tête sur une base régulière de manière à pouvoir le faire manifester.
Alors, c'est ce que nous allons développer avec vous au cours de l'heure qui vient. Vous nous avez apporté de très belles pièces musicales, instrumentales, parce que je le disais en introduction, vous êtes un amateur de musique.
Oui, tout à fait.
Et particulièrement, vous jouez de la guitare. Et là, la première pièce que vous nous proposez, c'est un concerto qui est peut-être pas très connu, Concerto Anico?
En fait, c'est Concerto Antica pour guitare. Et c'est une composition de Harvey, j'oublie son prénom, Harvey qui est né dans les années...
Richard
Harvey qui est né dans les années 40. Et voilà un compositeur dont on entend très peu parler. Et vous allez entendre la pièce, c'est joué, la guitare est jouée par John Williams, qui a fait, je pense, à peu près une cinquantaine d'enregistrements depuis, 45 ans à peu près. Alors c'est un avec le London Symphony Orchestra.
De retour au gré du temps, en compagnie de M. François Préjean, directeur du service aux entreprises au Centre local de développement de Montréal-Nord. M. Préjean, quand on parle de développer une entreprise, vous disiez qu'il faut avoir cette vision, peut-être un système de croyances qui va nous permettre de développer notre sens de la créativité.
Mm-hmm. Oui, parce que si quelqu'un n'y croit pas, on peut démembrer ce système de croyances. On peut regarder le projet comme tel dans son ensemble, mais on peut regarder l'offre. Qu'est-ce que je veux vendre? Est-ce que j'y crois à ce que je veux vendre? Ensuite, regarder la cible. Qui va acheter mes produits, mes services? Est-ce la bonne cible? Est-ce que j'y crois que c'est la bonne cible? On peut aller plus loin quand on regarde le comment. Comment je vais me faire connaître? Si j'y crois pas, quant à mes stratégies de marketing, si j'y crois pas quant à mes stratégies de production, le comment, à un moment donné, ça va, le promoteur va avoir de la difficulté.
Alors, ça m'amène à vous demander, est-ce qu'on peut être chef d'entreprise ou entrepreneur et vendre, entre guillemets, des choses qui sont diamétralement opposées aux valeurs fondamentales auxquelles on croit?
Ouais, excellente question. Je pense qu'un avocat qui ne croit pas à la justice, mais qui est avocat pour faire du fric, on va le voir peut-être pas au début. C'est un peu comme un vendeur. Vous savez, j'ai été vendeur sur la route à un moment donné pendant des années, dans les années 90. Il y a toutes sortes de livres qui s'écrivait dans les années 80 par rapport à des techniques. Comment persuader? Comment convaincre quelqu'un? Moi, je parle de techniques. Ces techniques-là, ce sont des techniques qui sont à la surface. Et à un moment donné, dans les années 90, les gens, les acheteurs, les consommateurs, se sont... en quelque sorte, ils ont vu le filon, ils ont vu la technique, et l'approche des années 80 a cédé le pas à une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus intelligente. Et encore là, il y a des représentants qui...
Mais on a vu par exemple, je vous arrête, mais on a vu par exemple à l'égard de ce que vous dites, la tendance sur tout ce qui est équitable.
Oui.
Alors là, on est dans le domaine des valeurs.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut absolument qu'il y ait un lien entre les valeurs puis le produit que l'on vend. Pourquoi? Parce qu'on, quand on vend, on y met tout son cœur, on y met notre âme, et ça vaut beaucoup plus que le prix qui est fixé par rapport à un produit, un service.
Alors, la simple volonté de vouloir, par exemple, faire de l'argent ne peut pas être une valeur en soi.
Bien, à court terme, vous pouvez peut-être avoir du succès. À long terme, vous allez avoir des problèmes parce que juste de fonctionner de cette façon, le client va le ressentir. Mais à court terme, il y a tellement un écran de fumée, de c'est quoi l'expression, de miroir, et ce qui fait que on voit pas venir la technique. Ça nous éblouit. Mais à un moment donné, on s'aperçoit que tiens, ce qui nous a vendu, c'est pas exactement ce qu'il nous avait dit.
Donc, l'arrimage entre valeur et développement d'affaires est essentiel.
Est essentiel. En fait, le promoteur, ce qu'il devrait faire, c'est aller le plus profondément possible en se posant la question: qu'est-ce que j'aime faire et de quelle façon j'aimerais servir les autres? Ça revient tout le temps à la même chose.
Comment puis-je servir? C'est pas une tâche nécessairement facile.
Non, sauf que, étonnamment, quand on adopte cette approche, la vie devient beaucoup plus facile parce qu'on ne voit pas la vie comme une succession de tâches, mais plus comme une mission de servir les autres. Et par conséquent, on en donne plus que 100% aux clients. On en donne, l'expression qu'on trouve dans les livres de marketing, c'est donner 110%.
Fascinant. On va pouvoir poursuivre là-dessus. Présentez-nous donc l'autre pièce que vous nous avez apportée.
Alors, je vous parle d'un guitariste qui s'appelle Don Ross, que j'ai vu à plusieurs reprises à Montréal. Don Ross est né, élevé, a été élevé à Montréal. Il habite Toronto. Il a une carrière internationale. C'est un maître guitariste, guitare acoustique. Il joue avec ses doigts. L'approche est fingerstyle. Et vous allez écouter une pièce que j'adore. Et vous allez voir.
Effectivement, une très belle pièce musicale que vient de nous présenter M. François Préjean, directeur du Centre local de développement de Montréal-Nord. Aujourd'hui, notre thème, c'est de parler d'un peu de cette destination bonheur lorsqu'on lance une entreprise, mais de changer probablement son schéma de pensée à l'égard de la vente, de la façon d'aborder la vente.
D'une façon très globale, très générale, quand quelqu'un vit sa vie, si on met de côté un projet d'affaires, mais la vit en se disant « comment puis-je servir les autres? » La vie est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. C'est la même chose avec un projet d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend des produits, il vend des services. Et l'idée, c'est de dire « OK, de quelle façon est-ce que ces produits, ces services puissent servir les autres? » Et je peux vous dire que durant le jour, comme aujourd'hui, j'ai fait du démarchage à Montréal-Nord, j'ai rencontré des manufacturiers. Et si j'y allais avec l'idée que j'ai un objectif de rencontrer tant de manufacturiers, ça serait beaucoup plus lourd. Je pars tout le temps ces périodes de démarchage, de rencontres, de visites, avec l'idée « comment puis-je servir ces gens-là? »
Comment rentrer, en fait, en relation avec l'autre?
Oui, tout à fait.
C'est un peu l'esprit qui vous anime.
Tout à fait. C'est d'écouter l'autre, c'est de voir quels sont ses besoins, voir s'il y a un arrimage et voir comment je peux servir l'autre, comment je peux répondre à ses besoins. Et des fois, c'est plus difficile, des fois, c'est très facile.
Alors, en fait, on est ce que j'appellerais dans le domaine de, entre guillemets, de l'humanitude. Vous connaissez cette expression qui vient de Ginès Marescotti, qui disait « la bienfaisance à l'égard de l'autre », appelons cela de l'humanitude. Quand vous êtes en relation avec des gens d'affaires, vous abordez ces gens d'abord à partir de l'élément humain qui les anime.
Je pense qu'éventuellement, on va en parler davantage. On entend des fois des gens connus, des auteurs. Je pense à quelqu'un qui est très connu aux États-Unis, Oprah Winfrey, qui est probablement l'animatrice qui a le plus d'influence aux États-Unis, qui a une cote d'écoute extraordinaire dans les millions et qui le mentionne régulièrement. Comment puis-je servir? Je pense que quand on parle de projet d'affaires, on va souvent parler de capitalisme. On sait que t'es en affaires, c'est parce que tu veux faire du fric.
Ouais.
Il y a pas de mal à faire des affaires pour faire de l'argent. Sauf que ce n'est pas suffisant quand on y va avec sous cet angle seulement.
Ça doit pas être le moteur essentiel. C'est un moteur important, mais il y a bien d'autres choses dans le véhicule.
Ça ne peut pas être le moteur essentiel. Il faut aller beaucoup plus profondément, faut s'intéresser à ses clients, faut voir comment on peut les aider, faut être présent, faut aimer ça, avoir le plaisir, le fun de servir les autres, d'être avec des collègues qui parfois sont pas à la même longueur d'onde que vous, mais le voir d'une façon globale, on est tous des êtres humains, et comment peut-on faire pour travailler ensemble, pour s'amuser,
et
puis servir.
Encore une fois, c'est le paradoxe, parce qu'on a souvent l'impression que dans une relation d'affaires, il y a une espèce de déséquilibre entre quelqu'un qui est peut-être supérieur à l'autre, qui essaie de vendre ou, dans certains cas, on parle même d'arnaquer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessairement le lot des entrepreneurs, mais vous savez qu'il y a aussi, dans, comme dans tous les domaines, des gens qui le font de façon, comme vous l'avez dit, avec pas nécessairement les bons objectifs.
Ouais, si quelqu'un se positionne comme étant inférieur ou se positionne comme étant supérieur,
ouais.
Si moi, un exemple, si moi je suis un cours à l'université, je vais tout de suite peut-être me sentir inférieur face à un professeur, une sommité dans un domaine. Ce qu'on veut faire avec qui que ce soit, c'est s'assurer qu'on est au même pied d'égalité, qu'on respecte l'autre pour ce qu'il est, en dépit des lacunes, des faiblesses, des carences, de manière à ce qu'on puisse évoluer ensemble. Puis, vous le savez que la personne à qui vous parlez, qui a ce senti, qui a, à, que vous considérez de cette façon,
ouais.
Il va le ressentir.
Oui.
Et c'est ce qui fait toute la différence.
Et c'est pour ça que je parlais de paradoxe, parce que il n'y a pas de relation supérieure-inférieure. On est, dans le fond, même en affaires, dans une relation d'égal à égal, parce qu'on s'adresse à quelqu'un qui est humain comme nous.
Je pense que ça devrait être la norme. C'est pas partout, c'est pas partout pareil, mais ça devrait être la norme. Et ça s'insère dans l'idée d'avoir du plaisir et de servir les autres.
Bien, on va réfléchir sur ce concept et vous nous avez apporté une pièce qui nous permet effectivement ce moment de réflexion. Voilà peut-être un esprit supérieur quand même lorsqu'il est question de Jean-Sébastien Bach.
Ah, tout à fait. Là, vous allez avoir un flûtiste, James Galway, qui joue une pièce solo. Et c'est une pièce que j'ai entendue. Il y avait une émission à Radio-Canada au début des années 70 qui commençait tout le temps avec cette pièce-là. Et à chaque fois que je l'entends, moi, ça me fait penser à la forêt, des arbres, la nature, et voilà.
Alors, l'allemande de la partita en la mineure, BWV 1013 de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Une pièce, effectivement, qui facilite la réflexion sur des thèmes qui nous habitent à tous les jours. Vous savez, petite anecdote, James Galway est un flûtiste qui utilise une flûte traversière, dit-on, en or.
Oui, tout à fait.
Et c'est ce qui donne cette sonorité bien particulière.
Oui, tout à fait. Je suis allé voir Jean-Pierre Rampal. On retourne il y a 30 ans, j'ai 53, alors on retourne il y a 30 ans, j'étais allé le voir à la Place des Arts, et lui aussi avait cette fameuse flûte en or dont se plaît à mentionner James Galway, à savoir si elle a une meilleure sonorité, je l'ignore, mais oui, effectivement, une flûte en or.
Oui, et James Galway a ce côté un peu badin, à tout le moins, il a cette expression, c'est un Irlandais, je crois.
Oui, tout à fait. Il a joué avec les Chieftains, et on l'a vu à des émissions, des talk shows américains, et c'est quelqu'un qui ne se prend pas pour un autre.
Et qui sait bien rendre la musique de Jean-Sébastien Bach.
Tout à fait.
Revenons, avant de faire la pause de cette première demi-heure, qu'est-ce qui vous a amené, vous, qu'est-ce qui vous a préparé, essentiellement, à réfléchir sur ces concepts de relations au plan des affaires?
Ouais, ça c'est une question complexe.
Qu'on ne réglera pas en 3 minutes.
Je vous dirais que mon père s'intéressait à la spiritualité. Dès l'âge de 12 ans, mon père importait des livres de la Californie, des boîtes pleines de livres qui parlaient de méditation, qui parlaient de réincarnation, qui parlaient de l'aura, qui parlaient de ci, de ça. Mon père s'interrogeait sur un tas de questions. Et dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à méditer. Et j'ai bien fait de garder ça de mes copains avec qui je jouais au hockey ou au football ou n'importe quel autre sport, parce que quand j'en parlais, je recevais le ridicule de mes amis. Alors, ça m'a fait évoluer. Puis par rapport à un projet d'affaires, je vous disais que ça faisait 7 ans que je fais ça. Au début, je m'en tenais au document, le plan d'affaires, qui est l'expression d'une compréhension.
Mm-hmm.
Je me suis vite aperçu qu'on peut avoir un plan d'affaires superbement bien écrit et que...
Mais vide de sens.
Vide de sens. Vide de sens.
Alors, la quête du sens a été peut-être la flamme qui vous a animé au plan de cette réflexion.
Ah, tout à fait, puis ça date de très longtemps.
Alors, nous allons faire une pause, mais auparavant, on a une surprise pour vous, parce que vous avez la guitare. Nous allons vous proposer une courte pièce, vraiment très brève, qui s'intitule « El Marabino » et qui est interprétée par Valérie Duchâteau. Valérie Duchâteau, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une Française qui, à peine à 11 ans, a été présentée à l'époque à ce grand guitariste Alexandre Lagoya, qui l'a pris immédiatement sous la coupe et qui a déclaré « Valérie Duchâteau laissera son nom dans l'histoire de la guitare ». Je ne sais pas si ça s'est avéré vrai, mais on va pouvoir évaluer son talent en écoutant cette pièce qui s'appelle, une fois de plus, « El Marabino ».